Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Ce garçon a-t-il des défauts? On s'interroge depuis 30 ans et on ne trouve pas. Spirituel avec un sens aigu du second degré, beau gosse, professionnel et adaptable, qu'il s'agisse d'émissions de jeux, de défis, d'aventures, de talk-shows, de pièces de théâtre, Olivier Minet, partout chez lui, avec l'assurance tranquille de ceux qui savent qu'ils sont faits pour le job. Du lundi au vendredi, il nous donne rendez-vous sur France 2 à 18h, pour tout le monde a son mot à dire, rediffusé le lendemain matin à 9h55. Bien sûr, Fort Boyard va redémarrer dès le 19 juin, mais en plus, ce garçon écrit, et bien. Son premier roman avait pour titre « Un château pour Hollywood ». En attendant le deuxième, eh bien, on peut plonger dans l'âge d'or de la télévision raconté par le prisme des premières femmes qui ont fait de l'antenne dans un monde d'hommes, les speakerines. Speakerine, une histoire de femme à la télévision, paraît en poche aux éditions Le Rocher. Bonjour Olivier Mine.
Bonjour Isabelle, quel bonheur de vous avoir près de moi, sachez-le.
Elle commence fichtrement bien cette émission. Bon, Olivier Mine, ce livre argumenté et très spirituel qui retrace donc l'histoire d'un métier disparu, métier exercé par des femmes qui ont ouvert la voie à l'époque pionnière de la télé.
Exact.
Elles ont ouvert la voie à celles qui plus tard animeront des talk-shows. Et bien ce livre, paru il y a 3 ans, a été un tel succès de librairie qu'il sort en poche. Voilà, les speakerines intriguent donc toujours. Mais comme vous avez été le dernier speakerin de la télé, cher Olivier, sur Antenne 2 il y a 30 ans, ben j'aimerais savoir si des journalistes se sont penchés sur le métier de speakerin comme vous l'avez fait pour vos consoeurs. Car speakerin, j'aimerais comprendre, c'est un ersatz de speakerine ou bien c'était carrément un autre job?
Non, c'était un ersatz en fait. C'était pas vraiment un autre job, même si à la toute fin, quand Jacqueline Joubert, première téléspeakerine en 1949, quand elle a fait ses premiers pas devant une caméra, même si Jacqueline Joubert, au moment où elle m'engage, a envie de mettre un petit coup de pied quand même dans l'édifice que représentait le métier, qui était un métier qui n'était pas figé, mais qui s'était un peu sclérosé, et pour cause, en fait, il se mourait.
Un peu académique.
Oui, il était un peu académique et il commençait à mourir. En fait, c'était la vérité, puisque 3 ans plus tard, les speakerines s'éteignaient définitivement.
Mais donc on a pensé à vous, peut-être pour tester un humour décalé que n'avaient pas ces dames,
alors,
ou qu'elles n'avaient pas le droit,
en tout cas,
de manifester.
Oui, ça, c'est surtout ça. Elles l'ont fait ponctuellement pendant les 50 ans, plus de 50 ans, où les speakerines ont existé. Mais il n'empêche que Jacqueline ne le savait pas quand elle m'a engagé, parce que franchement, j'ai été très mauvais pendant mes auditions. Mais quand elle m'a finalement pris... C'est à ce moment-là que je pense qu'elle a dû découvrir que le jeune homme que j'étais pouvait proposer peut-être des choses beaucoup plus décalées sous une apparence de jeune homme de bonne famille. J'allais pouvoir proposer des trucs un peu décalés, voire même très
avec poivrés. Un vrai sens du second degré.
Oui, voilà, c'est ça.
Voilà. Quand Jacqueline Joubert, donc en 90, vous a proposé ce job inattendu, vous pensiez vraiment que ce serait une parenthèse éphémère, avant d'intégrer le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, ou bien vous vous êtes dit « Ah, ça va être le cheval de Troie. Je vais peut-être intégrer un monde qui me fascine. »
Je ne l'ai pas compris comme ça, parce que vous l'avez souligné, je préparais en même temps le Conservatoire National d'Art Dramatique de Paris. J'allais passer le premier tour et je savais qu'à l'époque, les règlements du conservatoire interdisaient, si je passais le second tour et que j'étais reçu, interdisaient de pouvoir travailler dans une entreprise audiovisuelle en étant élève au conservatoire. C'était interdit dans les statuts du conservatoire.
Ça ne l'est plus ?
Je ne sais pas si ça ne l'est plus, mais en tout cas à l'époque, ça l'était. Et donc je savais qu'en acceptant ce que Jacqueline Joubert me proposait, devenir présentateur des programmes, je n'allais pas le faire très longtemps si, passant le second tour et étant reçu, je devais faire un choix, car pour moi, être sur les planches était plus important que la télévision. Car, très honnêtement, à 22 ans, quand on vous propose de devenir speakerin, je trouvais que c'était absurde de faire ça.
Non, parce qu'il faut dire quand même que ça signifiait s'asseoir dans le fauteuil, par exemple, de Catherine Langeais, d'Anne-Marie Besson, de Denise Fabre. Donc, j'imagine qu'à 22 ans, avec Maëlys, on a quand même envie de ruer dans les brancards.
Bah, surtout quand, en plus, la toute première, la grande pionnière, vous autorise à le faire, vous donne la carte, le passe, en vous disant « Vas-y, mon chéri, fonce !»
Elle vous a dit, Jacqueline Joubert, « Vas-y, mon chéri !»
Évidemment. Et chaque fois que j'étais convoqué par la direction d'Antenne 2, parce que j'ai quand même fait les 400 coups, j'ai imité Jacques Chirac juste avant qu'il intervienne dans L'Heure de Vérité. Donc, les équipes de Chirac était folle de rage de voir que le présentateur des programmes d'Antenne 2 se foutait de la gueule de celui qui allait être reçu pendant 2h30 par François-Henri de Virieux. Que ce soit ça ou que j'arrive torse nu à l'antenne, j'en ai fait bien d'autres encore. Chaque fois que j'appelais Jacqueline en lui disant « je viens d'être convoqué », ils vont me virer. Elle me disait « mon chéri, ne t'en fais pas, c'est des ringards, je vais les appeler ».
Bon, Olivier Mine, pourquoi, pour pourquoi aujourd'hui aucune chaîne de télé ne tente le pari, certes surréaliste, de réintroduire, de manière bien sûr décalée dans le mood de 2021, des speakerines, comme Canal par exemple, qui a 30 ans, a inventé une nouvelle génération de Miss Météo. Pourquoi aucune chaîne ne tente ça ?
C'est vrai. Alors d'abord, parce que vous savez, c'est évident, mais d'abord, premièrement, les speakerines sont l'illustration la plus incarnée, évidemment, de ce qu'était la télévision linéaire, c'est-à-dire le fait qu'on regardait la télévision en prenant une chaîne à un moment donné, on peut zapper éventuellement, mais en tout cas, on se laisse parfois aller à regarder plus d'un programme à la suite.
Bien sûr.
La speakerine était ce lien entre les différents programmes. Ça n'est plus vraiment le cas aujourd'hui.
Ouais.
Les nouvelles générations picorent, en fait, ils vont chercher sur les seconds écrans, mais ils ne sont pas réellement toujours dans cette idée de linéarité, premièrement. Et puis deuxièmement, vous le savez, chaque seconde de télévision coûte de l'argent.
Voilà.
Et consacrer 30 ou 45 secondes à une jeune femme...
C'est éventuellement perdre de la pub.
Évidemment. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, où malgré les réseaux sociaux qui nous font croire que nous n'avons jamais été aussi connectés les uns aux autres, alors qu'on n'a jamais été aussi distancés les uns les autres, au moment où ce pays est tellement fâché avec lui-même, à plus d'un titre, il y aurait là la présence gentille, simplement gentille, de quelqu'un qui vous regarde droit dans les yeux, car c'était ainsi qu'elle s'adressait aux téléspectateurs, pour simplement vous dire d'un mot: j'espère que vous allez bien, passez une bonne soirée, je suis là, je reviendrai. Je pense que ça ferait du bien en même temps. Mais voilà, c'est fini, c'est terminé, c'est une affaire pliée. Ce sera pour plus jamais.
Donc
en fait.
Voilà, je n'ai même pas besoin de plonger dans la minute nostalgie et de vous demander si elle vous manque, les speakerines.
Elle me manque évidemment.
On reçoit Olivier Mine aujourd'hui dans Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. On fait une pause très courte, on le retrouve tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Cher Olivier, sur votre passeport, il est écrit que vous êtes de nationalité belge ou française ?
Alors, sur le passeport français, française. Sur le passeport belge, belge.
Bon, vous êtes né à Ixelles. Je ne sais pas si on dit Ixelles ou Ixelles.
Ixelles, vous avez raison.
Voilà, dans un quartier de Bruxelles, où sont nés d'ailleurs Audrey Hepburn, Christine Ockrent, Agnès Varda. Alors, on a le sentiment que les Belges sont vraiment de grands voyageurs qui... tout en ayant bien sûr l'amour indéfectible de leur patrie, n'hésite pas à provoquer le destin ailleurs, dans d'autres pays.
C'est vrai, c'est très juste ce que vous dites. Beaucoup d'entre nous, en tout cas, l'ont fait. Alors, ce n'est pas forcément un besoin ou une envie, d'ailleurs, je n'arrive même pas à qualifier ça. Mais il y a, en effet, quelque chose chez le Belge qui... Alors, peut-être aussi par rapport au fait que nous sommes souvent le fruit de mélanges. Et moi, pour le coup, je suis mélangé flamand, francophone, de Gand, béarnais, breton, parisien, espagnol et javanais. Donc tout ça ne porte qu'au voyage, finalement. On m'a mis des voiles à mon berceau pour me demander, enfin pour m'inciter en tout cas, sinon à m'en aller, en tout cas à voyager. Oui, peut-être qu'en effet, c'est lié à ce petit pays, ce petit royaume étrange, né de manière totalement surréaliste au début du 19e siècle et qui tient bon.
Qui est un carrefour culturel, n'est-ce pas?
Total.
Olivier Mine, vous avez donc grandi en Belgique, vous travaillez en France depuis à peu près 30 ans, et la partie privée de votre vie se déroule en Californie depuis presque 20 ans. Alors, qu'y a-t-il encore de Belge en vous ?
Tout le reste, madame. Tout le reste, madame.
Bon, d'accord.
Tout ce qui est à l'intérieur, malgré tout. Tout ce qui me constitue pour une grande part, peut-être même pour une... sans doute même, en fait, pour la totalité. Il y a un fondement, quand même, il y a un terreau. Ce terreau, il est à Ixelles, il est là-bas, et il est évident qu'il a défini, déterminé peut-être aussi, deux, trois choses de ce que je suis devenu et de ce qu'est l'homme aujourd'hui. Par exemple, par rapport à d'abord au goût de la langue. Le goût de la langue, par rapport aux gens qui m'entouraient, est quelque chose qui m'a été donné, mais quasi immédiatement. C'est quelque chose...
Par vos parents ?
Par mes grands-parents.
Ah.
Par mes grands-parents et mon arrière-grand-mère. J'ai connu beaucoup de gens du 19e siècle, en fait. On est au 21e, mais moi, j'ai été élevé par des gens du 19e siècle. Donc, et ces gens-là avaient un goût très prononcé pour la langue et pour les mots et pour le sens de ces mots et pour la façon dont il fallait les associer les uns aux autres. Mon plus beau cadeau enfant a été le dictionnaire Larousse. Le petit dictionnaire Larousse illustré. Je dormais avec.
Alors donc vous avez bien été étudiant en philologie romane,
oui,
par exemple.
Oui, totalement. Mais je n'ai été qu'une année. Je n'ai été qu'une année. Je suis honnête avec vous. Je n'ai pas fait ma licence. Et pourtant Dieu sait comme j'aime les lettres. Mais il y avait à 20 ans une impatience chez moi, une fougue, et l'idée aussi que le destin que je me préparais en faisant ces études-là n'était pas le mien, parce que je me voyais dans ce cas-là devenant chercheur ou professeur de français, de lettres, et j'avais des envies d'ailleurs. c'est-à-dire quand je dis d'ailleurs, pas forcément géographique, mais cet ailleurs pouvait être surtout, c'est-à-dire les planches, pouvoir vivre plusieurs vies dans ma vie.
C'est étonnant parce que vous avez été élevé chez les jésuites,
ah oui,
n'est-ce pas,
oui.
Donc ça donne une éducation très, enfin c'est très structuré.
Oui.
Bon, chez les jésuites.
Je ne suis pas.
C'était ma question.
C'est totalement vrai. Vous m'avez perçu.
La cible a été ratée.
Ah oui, vous m'avez perçu et percé. Je ne suis pas très structuré comme garçon. Et en même temps, cette déstructuration m'a structuré. Si je peux utiliser cette figure-là. Mais c'est vrai que. Non, mais les gestes m'ont quand même aidé beaucoup, comme d'ailleurs la famille, à au moins comprendre deux, trois choses sur moi et sur la vie.
Vous dites la famille. Quels étaient les métiers de vos parents ?
Alors, ma mère était artiste peintre, elle avait fait l'Académie des Beaux-Arts, elle a tout arrêté pour être avec mon père, et mon père, lui, a tenu des clubs privés à Bruxelles, et puis un restaurant. Mais au tout début, il vivait la nuit.
Alors, club privé, dans lesquels on venait écouter de la musique ?
Alors, on venait écouter de la musique, on venait jouer également, ce qui n'était pas vraiment autorisé, on venait surtout parler simplement, il y avait une toute petite piste de danse, je me souviens très bien de ces endroits-là parce que j'y allais et alors que j'étais pas autorisé à y aller, j'y allais parfois le soir, rarement, mais j'y suis allé quelques fois, j'avais 8 ans, 9 ans, et j'ai trouvé ça absolument extravagant comme endroit, puisque c'était un endroit qui était pas très grand, mais qui était tellement lumineux quand il s'agissait de la nuit, et quand j'y retournais en journée avec mon père ou ma mère, je trouvais ça d'une tristesse absolue, puisque avec la lumière crue du jour, ces endroits-là, bien sûr, perdent tout leur charme.
Voilà, les artifices de ces métiers.
Totalement.
C'est terrible,
totalement,
n'est-ce pas ?
Totalement.
Bon, vous rêviez de devenir acteur, donc voilà, la philologie romane, ça n'a duré qu'un an, saison. Vous avez fait vos valises pour Paris. En fait, c'est vraiment pour cette raison que vous avez quitté Bruxelles. Vous vouliez entrer au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, c'est ça ?
Oui, j'avais envie de ça parce que j'avais écrit une lettre.
Et devenir le nouveau Jacques Weber, devenir le nouveau Francis Huster.
Non, vous savez quoi ? C'est étrange d'ailleurs, parce qu'il était déjà âgé à l'époque. Je voulais devenir le nouveau Michel Bouquet. Et j'avais écrit à Michel Bouquet, parce que je ne savais pas trop quoi faire de cette envie, et j'avais besoin d'un signe. Et je me suis dit, donc j'ai été à l'ambassade de France à Bruxelles, parce qu'il n'y avait pas Internet à l'époque, j'ai été voir dans les annuaires, et il y avait 6 ou 7 Michel Bouquet qui vivaient à Paris. Et j'en ai choisi un, et c'était le bon. Je lui ai écrit un courrier en lui disant que j'étais un jeune homme qui rêvait simplement d'être auditeur libre. Je ne pensais même pas que je pouvais être autorisé à entrer au conservatoire. Donc je disais, est-ce que je peux être au moins auditeur libre dans votre classe du conservatoire le temps que je me prépare et que je puisse y entrer.
Et donc il vous a répondu.
Et il m'a répondu 8 jours plus tard en me disant qu'il n'était plus professeur au conservatoire l'année où je lui ai écrit, on est en 1988. Il me dit simplement, ce que je peux vous dire, croyez-y avec ténacité et foi. Allez-y, foncez de tout cœur, Michel Bouquet.
On retrouve tout de suite Olivier Mine.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Alors, cher Olivier Mine, si vous aviez franchi le second tour du concours d'entrée au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris, votre vie se serait écrite très différemment. Que s'est-il passé pour que vous échouiez au second tour alors que vous aviez réussi au premier ?
Au premier, oui. Au point même, d'ailleurs, que Jean-Pierre Miquel avait appelé, qui dirigeait le conservatoire, avait appelé ma professeure, Denise Bonnal, en lui disant « Écoute, je ne suis pas autorisé à te le dire, mais sache qu'une des meilleures notes a été donnée à un de tes élèves, Mine, franchement merveilleux, tellement intéressant ce qu'il a proposé. J'avais proposé, entre autres, en scène classique, la scène entre Cléante et Élise dans L'Avare de Molière. Et donc, fort de cela, j'ai gardé la scène classique de L'Avare pour mon second tour et la scène moderne qui était une scène de L'Amant de Pinter. Mais il se fait qu'au second tour, un homme dans le jury, qui était un grand metteur en scène, ça ne retire rien aux grandes qualités qui étaient celles de cet homme, qui est Jacques Lassalle, m'a pris en grippe pendant que je présentais mes deux scènes. Et pendant les délibérations...
Vous l'avez senti pendant que vous jouiez ?
Absolument pas. Mais je l'ai su 5 ans plus tard. J'ai su tout cela 5 ans plus tard. Je n'ai rien su, si ce n'est que j'ai su évidemment que je n'étais pas reçu parce que j'ai eu la plus mauvaise note au second tour. Et c'est 5 ans plus tard, je vais voir une pièce de théâtre dans laquelle jouaient Maria Pacôme et Denise Chalem. Et je vais voir Maria à la fin de la pièce parce que je la recevais le lendemain dans un talk show que je faisais qui était Matin Bonheur. Et donc dans les couloirs, j'entends une voix charmante qui me dit « Comment va Cléante ?» Alors je rebrousse chemin. Je passe la tête dans l'embrasure de la porte et je vois Denise Chalem qui est en train de se démaquiller et qui me regarde et qui me dit « Comment va Cléante ?» Je dis « Pardon ?» Je dis « Mais pourquoi me parlez-vous de Cléante ?»
Elle était dans le jury.
Elle était dans le jury. Et donc je rentre dans sa loge, elle me dit « Entrez ?» Et je lui dis, mais comment c'est possible? Je ne savais pas, Denise, vous étiez dans le jury. Elle me dit oui. Et elle me raconte ce qui s'est passé. Jacques Lassalle a détesté la manière que j'ai eue d'aborder le rôle de Cléante et encore plus de l'amante Pinter.
Et a convaincu en fait tous les
tout
autres
juré.
Jurés
ouais, ouais, ouais.
De ne pas vous accorder voilà. Les notes qui vous permettaient de passer le second tour.
Au conservatoire. Ouais. Donc c'est ainsi que ça s'est fait. Et alors, que dois-je dire à tout cela? Jacques Lassalle n'est plus aujourd'hui. Peut-être devrais-je dire tout simplement merci monsieur. Mais ça, qui sait?
Voilà, bah c'est très élégant. Alors, cher Olivier, à Paris, pour vivre et payer votre studio, il paraît que vous avez multiplié les petits boulots, mais il en est un, franchement, je dois vous le dire, qui m'épate. Parce que vous avez fait fort pour vous faire embaucher comme chef barman chez Maxim's. Oui, mais ça ne s'improvise pas, ça, de faire le chef barman chez Maxim's.
On est bien d'accord. Mais ce qui s'improvise, et a priori je ne me débrouillais pas trop mal, ce qui s'improvise, c'est le mensonge. Et c'est de mentir le plus vrai possible.
Vous avez menti pour vous faire embaucher.
Évidemment.
On ne vous a pas demandé, comme ça, de préparer des cocktails
jamais.
Très précis. Donc
jamais.
Vous êtes entraîné la nuit dans votre chambre avant de démarrer le job.
Même pas, parce que vous savez, quand on est un menteur à ce degré-là, on est tellement convaincu par son mensonge qu'en fait on se dit mais tout va aller très bien, quel que soit le niveau de difficulté du métier auquel on prétend.
Donc vous étiez vraiment un acteur.
Oui, mais si ce n'est que les clients, eux, de chez Maxim's se sont rendus compte très vite que de chez Varman, il n'y en avait pas derrière le bar. Et donc je préparais moi-même les recettes l'après-midi pour m'entraîner, oui. Je goûtais moi-même mes cocktails, ce qui fait que commençant à 11h du matin, à 16h, je n'étais plus très frais. Donc, non content de faire mal mes cocktails, je les renversais en plus sur les clients.
Ils vous ont gardé combien de temps?
Un mois.
Ah, d'accord. Alors, pendant ce mois, chez Maxim's, un chef barman chez Maxim's, il est quand même très bien placé, même s'il ne reste qu'un mois, pour observer les duperies de la comédie humaine et puis les jeunes beautés aux bras de vieux messieurs très riches. Ça devait être une scène de théâtre fabuleuse.
Ça l'était, c'est vrai. Et d'autant qu'il n'y avait pas que les clients, il y avait aussi Pierre Cardin qui dirigeait l'endroit.
Bien sûr.
Et qui était là avec toute sa cour qui l'entourait et qui d'ailleurs répondait toujours... à l'unisson de ce que disait Pierre, c'est-à-dire que quand le matin tôt, réunion, j'allais vers lui parce que je disais « Monsieur Cardin, que voulez-vous boire ?» Mais je savais bien sûr, chaque matin, qu'il allait me répondre « Un jus de carotte !» Et que j'allais après voir les autres qui chacun me disait « Un jus de carotte, un jus de carotte !» Tout le monde n'osait pas prendre autre chose qu'un jus de carotte, puisque Pierre Cardin avait pris
voilà.
Un jus de carotte. Donc je passais évidemment mes matinées à peler des carottes. J'avais les doigts orange à la fin de l'heure. Et je vous dis ça parce que c'est vrai que ce petit théâtre s'est joué pendant ce mois. Je prêtais main forte au sommelier de la rue Royale, alors que j'avais bu quelques vins de Bordeaux chez mon père, mais rien qui m'autorise à donner des conseils. Donc j'avais éclusé toute la cave.
Mais comment vous êtes-vous débrouillé au casting pour les convaincre?
Parce que c'est un homme merveilleux, qui vit toujours d'ailleurs, mais qui a été un merveilleux adaptateur de pièces de théâtre américaines, qui s'appelle Jacques Collard, qui dirigeait à l'époque l'Espace Cardin. Et Jacques, belge d'origine, m'avait vu chez Léon de Bruxelles, où j'étais plongeur et où je ne mangeais pas à ma faim, puisqu'on ne nourrissait pas à l'époque. Et donc il était venu me voir en me disant... Vous devez absolument changer de métier, parce que comme ça court là, vous allez bientôt disparaître, tellement j'étais maigre, je faisais 60 kilos. Et donc il m'a dit...
Et vous faites 1m91,
oui.
D'accord.
Donc il m'a dit, écoutez, je sais que chez Maxim's, ils cherchent un chef barman, allez-y. Je dis, mais je n'ai jamais fait le bar. Vous dites que vous avez fait le bar. Je dis, mais non. Il me dit, mais si. Je dis, ah bon, très bien. Il me dit, vous parlez l'anglais? Je dis, oui, un tout petit peu. Parce que mes grands-parents étaient anglais.
Oui.
Il me dit, très bien. Il dit, vous parlez l'espagnol? Je dis, pas du tout. Vous parlez l'espagnol? Je dis, ah bon? Ah oui. Il dit, très bien même. Je dis, ah bon, mais si vous le dites. Et l'allemand? Je dis, alors l'allemand, pas du tout.
On est chez Fedo.
On est chez Fedo.
C'est merveilleux.
Et c'est comme ça que ça s'est joué.
La suite de son histoire, eh bien, c'est dans un instant avec Olivier Mine sur Europe 1.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
C'est en compagnie d'Olivier Mine qu'on se balade cet après-midi. Olivier Mine, dont le livre « Speakerine, une histoire de femme à la télévision », écrit avec beaucoup d'esprit et de tendresse, paraît en poche aux éditions du Rocher. Alors, cher Olivier Mine, comme on vous voit tous les jours sur la 2, co-présenté avec Sidonie Bonnec à 18h, le jeu « Tout le monde a son mot à dire », rediffusé le lendemain matin à 9h55. Comme on vous voit ponctuellement présenter des prime time, et puis chaque été, bien sûr, depuis 18 ans maintenant, présenter le mythique Fort Boyard, on imagine que vous laissez la télé être chronophage et dévorer votre vie privée. On se trompe?
On se trompe, en effet.
On se trompe.
On se trompe parce que les jeux permettent, en fait, d'enregistrer rapidement un grand nombre d'émissions. Et ensuite, je suis libre de tout engagement pendant trois mois et demi. Et pendant ces trois mois et demi, j'écris, entre autres. Je travaille sur d'autres projets. Je pars en Amérique ou je vais à Bruxelles auprès des miens. En tout cas, c'est ce qui me permet de garder une distance avec la télévision. Et c'est tant mieux parce que la télévision a été gentille avec moi, cruelle parfois, quelques fois également même très violente. Mais donc, c'est pas que je m'en méfie, mais en fait, je me méfie pas de la télévision en soi. Mais je me suis toujours méfié, et ça s'est resté, de la lumière.
Je me méfie de la lumière, oui. Et pourquoi donc ?
J'ai toujours pensé, avant même d'y entrer, que la lumière était dangereuse. Et qu'en tout cas, elle pouvait l'être. Et je suis content d'avoir gardé
ça. Mais vous êtes sous la douche de lumière depuis 30 ans, Olivier Mine.
Oui, je sais, mais il y a eu des moments où on me l'a retirée, et fort heureusement, parce que j'avais toujours gardé à l'esprit qu'elle pouvait aussi amener du malheur. J'ai pas sombré. J'ai eu des moments difficiles parce qu'en fait, tout simplement, je ne gagnais plus d'argent. C'est-à-dire, je pouvais plus payer mon loyer et ma bouffe. Mais sinon, pour le reste, où je voyais des gens autour de moi que je pensais être des amis et qui me tournaient le dos. Mais sinon, pour ce qui est de l'antenne, pour l'antenne, ça n'était pas un problème de ne plus y être. C'était pas ça qui me posait souci. C'était simplement de ne plus avoir de rémunération. Mais je vous dis ça parce que...
C'est pour cette raison, en 2002, quand il y a eu une espèce de petit passage à vide, que vous avez décidé de faire vos valises et de quitter ce continent pour un autre, partir en Californie.
Quand je suis parti là-bas, c'est parce que je m'étais dit à l'époque, franchement là, à ce moment-là, je me dis, il y a eu un temps de télévision qui m'a été offert, j'ai vécu des choses merveilleuses, mais ça ne devait être que ce temps-là. Et puis maintenant, c'est terminé. Mais j'avais 35 ans. Et j'étais déjà pas... j'étais même pas une petite vedette, j'étais un petit peu connu, mais malheureusement pour moi, suffisamment pour être un peu ennuyé quand même au supermarché ou dans la rue par des gens qui, cela dit sans malice, me demandaient simplement « mais on ne vous voit plus, que faites-vous » Et c'est pas que ça me faisait mal, mais c'est que je ne savais pas quoi répondre.
Ça a eu le couteau dans
et
la
puis,
plaie.
Oui, un tout petit peu, parce que ça me rappelait simplement « ah oui, tu as été abandonné par celles et ceux que tu pensais être des amis ». Donc j'ai préféré dans ce cas-là partir et me dire « tu n'es pas venu à Paris pour faire de la télévision, tu es venu à Paris pour faire du théâtre, repars faire du théâtre. Ouais. » Et pour refaire du théâtre en étant le plus vierge possible de tout, il fallait donc aller à l'étranger.
Voilà.
L'Angleterre n'était pas une option possible puisque mes grands-parents y vivaient. Donc je suis parti loin, à Los Angeles plutôt qu'à New York, parce qu'à Los Angeles, quand je me réveillais et commençais ma journée au Lee Strasberg Institute de l'Actor Studio, Paris s'endormait. C'est-à-dire qu'au moment où moi je commençais ma journée, j'entrais dans ma nouvelle énergie, celles et ceux qui avaient cherché à me faire du mal ou qui m'avaient simplement abandonné, eux s'endormaient. Et je m'offrais donc
vous sentiez en fait magistralement libre et tout était possible.
Mais clairement, oui.
La renaissance. Alors, on va généreusement parler parce que c'est un chapitre important de votre histoire, donc on va évoquer tout à l'heure Los Angeles, mais là, revenons sur la télévision parce que on vous voit tous les après-midi donc pour l'émission
Tout le monde a son mot à dire
à 18h sur la 2. Bien évidemment, à partir du 19 juin prochain, redémarre Fort Boyard. Bon, je voudrais savoir, Fort Boyard, tous les tournages, bien évidemment, sont déjà dans la boîte. Depuis combien de semaines ?
On a fini fin mai, on a fini le 28 mai, pour être précis.
Le 28 mai. Bon, alors, vous tournez les 11 soirées de Fort Boyard en 15 jours. Mais Fort Boyard, c'est un programme très, très particulier avec plein de défis techniques. Donc, ce sont 15 jours, j'imagine, hyper intenses. Au début de l'aventure, Olivier Mine, les trois premières années, il paraît que vous dormiez sur le fort.
J'ai redormi cette année.
Ah, mais alors pourquoi ? Entre-temps, pendant 15 ans, plus personne n'a dormi à Fort Boyard. Il y a des fantômes ?
Non, au contraire, c'est un lieu mais apaisant. Je n'ai jamais aussi bien dormi dans un endroit que sur le Fort Boyard. Non, ce qui s'est passé, c'est que simplement cette année était très dense, en effet. Je devais également enregistrer des secondes parties de soirée qui finissaient tard dans la nuit. Et comme on recommençait plutôt tôt le matin, le seul moyen de sauver une heure et demie de sommeil, vous savez, dans ces cas-là, une heure et demie de sommeil, c'est beaucoup. Je préférais rester dormir sur le fort, ça me permettait d'avoir
candidats,
des nuits un peu plus longues.
Mais les candidats, eux, ne dormaient pas sur le fort.
Non, parce que eux, je ne les revoyais pas le lendemain. Eux, après, ils allaient dormir à l'hôtel et rentraient sur Paris ou en province le lendemain.
Il paraît que vous avez pratiquement testé toutes les épreuves, n'est-ce pas, de Fort Boyard ?
Pratiquement. Les nouvelles, ces dernières années, ont été plus compliquées à tester pour une raison simple, c'est que la mise en place de ces nouvelles épreuves est particulièrement lourde et que on n'a pas le temps pour simplement faire plaisir à l'animateur et à lui permettre de les tester dans le temps qui nous est donné pour les répétitions.
Mais alors, puisque vous avez pratiquement testé toutes les épreuves, quelle est l'épreuve qui vous rebute définitivement ?
Si je suis très honnête et sans fanfaronner...
Soyez très honnête.
Non mais je le suis depuis le début de notre entretien. je n'ai pas de problème avec quelque phobie que ce soit, mais j'avoue que je ne nourris pas une passion extrême pour les araignées. Voilà. Mais Sincèrement, j'en ai pris une dans la main, une belle grosse tarentule, une bonne grosse mémère bien paresseuse, qui se demandait, elle, davantage que moi, ce qu'elle
c'est
faisait
elle
sur ma
peur.
Main. Oui, totalement. Mais sortie de là, voilà. J'ai aimé faire tout ce que j'ai pu tester, j'ai aimé le faire. Tous les animaux qui sont sur le fort, je les aime. Et je n'ai pas de problème avec les serpents, je n'ai pas de problème avec les rats. Ce sont mes amis.
Mais alors, les vrais dangers de Fort Boyard, quels sont-ils? C'est plutôt la tempête autour du fort, plus que les épreuves?
Le vrai danger de Fort Boyard, c'est d'y poser le pied en oubliant qu'on a été enfant. C'est le seul vrai danger de Fort Boyard. Et tous les candidats ou les techniciens qui ne sont pas restés sur le Fort Boyard ou qui ont été de mauvais partenaires d'équipe, pour ce qui est des candidats, l'ont été à cause de ça.
On retrouve tout de suite Olivier Mine.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Alors, cher Olivier, je reprends en fait le fil de l'histoire parce que tout à l'heure, on a évoqué donc Los Angeles en 2002, effectivement, au cours d'un petit passage à vide loin des plateaux de télé. Vous avez décidé de vous lancer dans votre propre conquête de l'Ouest, c'est-à-dire changer de continent, puis traverser l'Amérique en direction du Pacifique pour poser vos valises à Los Angeles et peut-être y vivre, voilà, une espèce de renaissance. Mais je voudrais savoir, vous connaissiez du monde là-bas ou absolument personne quand vous êtes arrivé?
Ah non, personne. Je ne connaissais de l'Amérique que ce que j'en avais lu, vu ou entendu. Mais ça s'arrêtait là. Je n'avais jamais posé le pied en Amérique. C'est la première fois que j'ai posé le pied en Amérique, c'est pour essayer d'y trouver quelque chose. Je ne savais pas quoi. Et ce n'est que bien longtemps après que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était moi. En fait,
vous aviez rendez-vous avec vous-même.
Ouais, ouais. Mais il fallait que ce soit là-bas, pas ici.
Alors là-bas, dès votre arrivée, vous êtes inscrit à l'Acteur Studio de LA, n'est-ce pas? Il vaut mieux parfaitement maîtriser l'anglais quand même pour ça.
Et mon anglais n'était pas extrêmement bon, alors que pourtant j'ai un grand-père qui était de Northampton et une grand-mère qui était parfaite bilingue. Mais c'est vrai que comme on parlait aussi beaucoup français à Londres, je ne maîtrisais pas très bien mon anglais, non. Donc j'ai un peu quand même sous-collé, comme on dit en bruxellois, c'est-à-dire j'ai un peu sué sang et eau pour comprendre tout ce qu'on me disait parce que j'étais un peu perdu.
L'Acteur Studio, par rapport alors au cours que vous aviez pris pour passer le concours d'entrée au conservatoire, c'est vraiment très différent.
Vraiment, en effet. La méthode de Strasberg, qui pour une part est très inspirée de celle de Stanislavski, est une méthode qui n'est pas réellement ce qu'on appellerait la méthode française, si tant est qu'il y en ait une. Ce qui était très difficile pour moi et redoutable compte tenu de la situation où c'est vrai que je n'étais pas dépressif, mais j'étais dans quand même une grande forme de déprime, c'est que la méthode de Strasberg est une méthode qui part du principe qu'il faut se nourrir de soi. On travaille sur à la fois la mémoire du corps, beaucoup, ce sont des exercices de mémoire sensorielle, pour déconnecter le cerveau. Parce que l'idée, c'est que ce ne soit pas le cerveau qui travaille quand il s'agit d'interpréter quelque chose, mais que ce soit directement par le corps.
Mais alors, est-ce que tout ça vous sert, par exemple, à la télé?
Ça m'a servi, ça me sert encore. Je dis que ça m'a servi parce que la télévision a cela de difficile. C'est que quand elle vous demande d'enregistrer beaucoup d'émissions chaque jour, il y a un moment où vous redevenez victime des scories, j'appelle ça comme ça, de ces espèces de concrétions qui se forment autour de vous et autour de votre animation et c'est pas qu'elle vous empêche, mais c'est qu'elle vous contraint parce qu'elle vous ramène à nouveau à des tics de langage, des tics physiques, de position, de posture, tout ce que je n'aime pas que je fais et que je fais parfois quand c'est la fatigue, qu'il est tard dans la journée. Mais l'Acteur Studio donne cette exigence-là qui est, oui, on est autorisé bien sûr à piquer du nez de temps en temps par rapport au niveau élevé que demande la méthode, mais il n'empêche, c'est toujours de garder à l'esprit, quand on le peut, de revenir à ça, de revenir à des choses qui sont les plus authentiques possibles.
Alors, cher Olivier Mine, à Los Angeles, vous nous l'avez confié à l'instant, vous aviez rendez-vous avec vous-même. Mais qui êtes-vous à LA que vous n'êtes pas en France ou en Belgique? C'est la ville où vous avez commencé à écrire une biographie, des romans. Je voudrais savoir, vous aviez rendez-vous avec vous-même, mais LA vous a révélé quoi de vous?
Elle m'a révélé, alors ça c'est sans doute la meilleure question qu'on m'ait jamais posée. Elle m'a révélé bien des choses que je ne peux pas décrire non plus en quelques mots seulement, bien sûr, parce que tout ça est plus complexe, c'est pas forcément complexe, mais plus subtil que simplement quelques mots. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle m'a révélé à tout ce que j'essayais d'éviter de moi, pensant que comme ce n'était pas assez bien, il fallait que je le fuie. Et en fait, j'ai compris là-bas qu'il fallait aussi, surtout, accepter tout ce qui peut nous déranger. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut s'en contenter, c'est pas pour autant qu'il faut renoncer, mais il faut d'abord, la première chose en fait pour faire un travail sur soi et pour continuer de progresser et d'apprendre, c'est d'abord d'absorber ça, d'absorber cette part de soi dont on est moins fier ou qu'on trouve plus faible, parce qu'elle fait malgré tout partie de nous. Mais donc voilà, c'est surtout ça. Maintenant, vous savez, toujours un problème avec la définition de soi, parce que ça m'a beaucoup marqué quand j'étais ado. J'ai lu les mots de Sartre qui dit, à un moment donné, dans son livre, qui dit que définir quelqu'un, c'est le tuer. Et quand j'ai lu ça, j'avais 15 ans, et j'ai trouvé ça tellement fort, parce que je me suis dit, oui, cet homme a raison, en effet. On ne peut jamais s'autoriser à définir les autres par quelques mots, parce que c'est les tuer. Et se définir soi-même de quelques mots, c'est en tout cas beaucoup s'empêcher, sinon se tuer.
À méditer, on retrouve tout de suite Olivier Mine. Olivier Mine, pourquoi, il y a 4 ans, avez-vous pris la plume pour écrire l'histoire du dernier French Lover à Hollywood, Louis Jourdan, dont on a oublié qu'il a tourné sous la direction d'Hitchcock, de Billy Wilder, de Vincente Minnelli. Mais pourquoi? Pourquoi cette biographie-là?
Au départ, je voulais faire un documentaire. Quand j'ai frappé à la porte de Louis, c'était pour faire un documentaire plus qu'un livre. Et puis le film n'a jamais vu le jour parce qu'aucune chaîne de télévision n'a voulu me le signer. Et pendant que je passais mes après-midi chez Louis, je me suis rendu compte que le film n'aurait jamais traduit pleinement ce que j'étais en train de vivre.
J'avais en tout cas changé de support.
Oui, parce que...
Recueillir ses confidences.
Au départ, c'était uniquement ça. Voilà. Je m'étais dit, je fais 3-4 séances de 3 heures, ce sera bien suffisant. Et après ça, j'en ferai un livre, une bio. Et puis, ça s'arrêtera là. Et puis, en fait, on a été piégés, Louis et moi. On a été piégés parce que moi, je ne pouvais plus me passer d'aller le voir. Et lui, semble-t-il, aussi. Et donc, ça a duré 5 ans. Alors que dans mon idée, ça ne devait durer que 12 heures. Et donc, c'est certain qu'un seul livre...
Mais est-ce que vous n'avez pas, pardonnez-moi de dire ça, Olivier Mine, mais est-ce que vous n'avez pas fait un transfert sur cette star de l'âge d'or de Hollywood auquel, sans la barbe, vous ressemblez?
Alors, je vous jure, Isabelle, que je ne l'ai pas intellectualisé comme ça.
Mais je ne suis pas la première à vous dire ça.
Mais vous n'êtes pas la première. Et 2 ans après le décès de Louis, je déjeune avec Joanna Chimkus, qui est devenue une amie très proche, et qui est la femme de Sidney Poitier. Ça ne lui donne pas de qualité particulière, mais c'est seulement pour que les auditeurs comprennent qui est Joanna. Mais donc, je vous dis ça parce que Joanna me dit 2 ans plus tard, je lui dis à Louis, pourquoi tu continues de voir Olivier alors que vous vous êtes, semble-t-il, tout dit? Et il m'a répondu 2 choses. Il m'a dit, nous n'aurons jamais fini de nous dire des choses. Et deuxièmement, il lui dit, je le regarde et l'avoir près de moi, c'est un peu de moi plus jeune que je m'offre chaque après-midi.
Ah, Olivier Mine, l'année dernière, alors cette fois-ci c'est au roman pur que vous êtes consacré, mais toujours infusé par le mythe hollywoodien, avec en toile de fond le château Marmont où se sont retrouvés sur Sunset Boulevard, donc absolument toutes les stars depuis Gloria Swanson dans les années 30 jusqu'à aujourd'hui Lady Gaga. Pourquoi cette fascination? C'est-à-dire que Hollywood est, à part le livre qui paraît aux éditions Desrochers en poche sur l'aventure des Speakerines, Hollywood est au cœur de tous vos écrits.
Pour l'instant, mais c'est vrai que... Alors, Louis, c'est pas que Hollywood. Dans le livre de Louis Jourdan, je parle de mes après-midi aussi. Alors, vous me direz, les après-midi, c'était chez lui et c'était à Beverly Hills, donc c'était à Hollywood, c'est vrai. Mais je parle également de la vie de Louis en France avant qu'il parte aux États-Unis en 1946. Mais c'est vrai que le roman, c'est vrai, c'est un nouveau Hollywood, mais ce n'est pas moi. C'est mon éditeur qui m'a donné l'idée du Château Marmont. Je l'avoue, moi d'abord, je n'avais même pas l'idée d'écrire un roman. C'est Jean Le Gall, qui préside aux destinées des éditions Séguier, qui m'a dit un jour, compte tenu de ce qu'il avait lu du Louis Jourdan, maintenant, il faut que tu ailles sur le roman. Et je lui ai dit non, je ne suis pas romancier. Il me dit, ce n'est pas à toi de le dire. Et j'ai une idée. Il faut que ça tourne autour du château Marmont. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dedans, car le château est romanesque. Et j'ai découvert, j'y ai vécu au château Marmont, j'ai voulu m'imprégner de l'ambiance.
Parce que vous mêlez, en fait, la fiction, la réalité du lieu, des personnages inventés et de vraies stars.
J'ai mélangé tout ça.
Olivier Mine, que vous manque-t-il pour être miraculeusement heureux?
Que toutes celles et tous ceux qui m'entourent le soient pleinement, et ça n'est pas toujours le cas. Donc voilà, pour être magnifiquement heureux, il faudrait idéalement qu'ils le soient tous et toutes.
Vous avez une petite idée de l'endroit où vous serez dans 10 ans, 15 ans et ce que vous y ferez? Je vous pose la question parce que j'ai le sentiment que vieillir à la télé ne vous obsède pas.
Non, On ne peut pas dire que ce soit le cas.
Bon, voilà.
Je vous le confirme.
J'ai deviné.
Non, 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 j'espère bien que ce ne sera pas le cas. Écoutez, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. D'abord parce que je ne sais pas quelle est la durée de validité de mon ticket. Mais au-delà de cet aspect-là, si tant est qu'il me soit donné de pouvoir encore rester un peu, j'espère en tout cas que ça me permet, que là où je serai, ça me permettra de, à la fois, évidemment, d'entretenir une certaine forme d'épanouissement personnel. Et aussi de peut-être trouver peut-être une autre façon de donner un sens à ma vie. Je crois que je n'ai pour le moment, si j'ai dû courir après quelque chose, ça n'est pas, contrairement aux apparences, la célébrité, ça n'est
c'est
pas
après,
l'argent.
C'est après.
Pourquoi je suis ici. Qu'ai-je à faire que je n'aurais pas compris encore suffisamment et que donc je suis en train de louper ou que je fais mal ou pas assez. Donc je suis toujours là-dedans. Et donc voilà.
Ça remplit une vie.
Oui.
Bon, nous, on attend eh bien, le prochain Fort Boyard. La nouvelle saison démarre le 19 juin. Vous nous donnez rendez-vous, en attendant bien évidemment, sur France 2, tous les jours à partir de 18h, avec tout le monde a son mot à dire. Et puis, le bouquin a glissé dans le sac de plage, parce qu'il est léger, mais il est riche. Il est spirituel, plein de fantaisie, pas de nostalgie, argumenté. C'est donc Speakerine, une histoire de femme à la télévision. Et il est en poche, donc aux éditions du Rocher. Merci infiniment.
Merci à vous Isabelle, du fond du cœur.
À très vite. Juste après l'info, Stéphane Bern et Mathieu Noël vous attendent pour Historiquement Vôtre.